Chapitre 4. Detta de l'autre côté. 1. Il te faut rester sur tes gardes, avait dit le pistolero. Mais en dépit de l'accord exprimé, il n'en restait pas moins certain qu'Eddie ne savait pas de quoi il parlait. Toute la part profonde de sa conscience, celle qui héberge ou non l'instinct de survie, n'avait pas capté le message. Le pistolero s'en aperçut. Et ce fut une chance pour Eddie. 2. Au beau milieu de la nuit, les yeux de Detta Walker basculèrent, grands ouverts. Il y scintillait la clarté des étoiles et une conscience aiguë de la situation. Elle se souvenait de tout, de la résistance qu'elle leur avait opposée, comment ils avaient fini par l'attacher dans son fauteuil, et la manière dont il l'avait narguée, ne cessant de la traiter de « sale négresse, sale négresse !» Elle se rappelait les monstres sortant des vagues, et l'un des deux hommes, le plus vieux, en tuant un. Le jeune avait allumé un feu pour faire cuire la prise, puis il s'était approché d'elle avec un sourire mauvais, et lui avait tendu un morceau fumant de chair de monstre. Elle l'avait frappé au visage et lui avait dit « Bon, parfait. » « Tu finiras bien par changer d'avis, sale négresse. On va bien voir si tu changes pas d'avis. » Puis, lui et le « vraiment méchant » avaient sorti un quartier de bœuf et l'avaient lentement, délicieusement rôti sur les braises de ce feu allumé sur cette plage inconnue où il l'avait amené. Tentation terrible que le parfum de ce bœuf grésillant sur les braises, mais elle n'en avait rien montré. Même quand le jeune lui en avait agité un morceau sous le nez en serinant « Mort dedans, sale négresse, allez, mort dedans !» Elle était restée de marbre, entièrement refermée sur elle-même. Puis elle avait dormi, mais maintenant elle était réveillée. Il l'avait détachée. Elle n'était même plus dans le fauteuil, mais allongée entre deux couvertures, largement au-dessus de la limite des marées hautes que les homards géants continuaient d'arpenter, tout en posant leurs questions absurdes, débarrassant l'air des mouettes bizarres qui avaient la malchance de passer à leur portée. Elle tourna la tête à gauche, n'y vit rien. Elle la tourna à droite, et son regard rencontra les deux types endormis, enroulés dans leurs couvertures. Le jeune était le plus proche, et c'était à côté de lui que le vraiment méchant avait posé ses ceinturons après les avoir retirés. Les pistolets dépassaient des étuis. « T'as fait une connerie, cul blanc !» pensa Detta. Et elle roula sur sa droite, constata que le crissement du sable grossier sous son corps restait inaudible, couvert par le vent, par les vagues et par l'interrogatoire plaintif des créatures. Telle l'une d'entre elles, les yeux brillants, elle commença de ramper vers les ceinturons. Les atteignit, s'empara d'une arme. La trouva très lourde, sa crosse si lisse, si totalement meurtrière dans sa main. Le poids ne l'inquiéta pas. Elle avait des bras musclés, Detta Walker. Elle rampa un peu plus loin. Le jeune n'était toujours qu'une souche au ronflement sonore. Mais le vraiment méchant s'agita soudain dans son sommeil, et elle se figea, un rictus tatoué sur la figure, jusqu'à ce qu'elle le vit de nouveau, parfaitement immobile. « Dois être usé, le salaud ! T'avises pas d'en douter, Detta ! » Elle trouva le cran usé du barillet, le poussa, n'obtint rien, tira. Il bascula, révélant des alvéoles garnies. « Chargez !»« Bien, ma fille !»« D'abord, tu t'occupes du petit pédé. Le vraiment méchant, il va se réveiller aussi sec, alors tu lui décoches ton plus beau sourire, et ce joujou va lui nettoyer la caboche comme une tornade blanche !» Elle referma le barillet, posa son pouce sur le chien, et attendit. Profitant d'une bourrasque, elle arma au bandé, braqua le revolver de Rolland sur la tempe d'Eddie. 3. Le pistolero vit tout cela par la fente de son œil entrouvert. La fièvre était de retour, mais pas assez encore pour qu'il eût à se méfier de lui-même. Donc il attendit, un seul œil entrouvert, tous ses nerfs prêts à détendre son corps, ce corps qui avait toujours été son arme quand il n'en avait pas une à la main. Elle pressa la détente du revolver qu'elle venait de prendre dans son ceinturon. Clic. Clic, évidemment. Quand Eddie et lui, palabre conclu, étaient rentrés au camp, ils y avaient trouvé Odette Holmes dans un profond sommeil, avachie sur un bras du fauteuil. Ils lui avaient aménagé le meilleur lit possible dans le sable, l'y avaient transporté, puis bordé. Eddie, ce faisant, n'avait pas douté qu'elle dût se réveiller. Le pistolero savait qu'il n'en serait rien. Il avait abattu un homard. Eddie l'avait fait cuire et ils avaient mangé, réservant une part pour Odette. Puis ils avaient parlé. Et le jeune homme avait dit quelque chose qui avait fait à Roland l'effet d'un éclair déchirant la nuit. Ce fut trop éblouissant et trop bref pour une saisie exhaustive, mais il vit beaucoup, comme on put discerner la configuration d'une côte dans le temps de cette seule et providentielle explosion de lumière crue. Il aurait pu en informer Eddie, mais n'en avait rien fait. Il se savait devoir être le corte du jeune homme, et quand un élève de corte se retrouvait en sang à la suite d'un coup qu'il n'avait pas vu venir, le commentaire du maître n'avait jamais varié. Un gosse ne comprend ce qu'est un marteau qu'après avoir eu le doigt proprement écrasé sur un clou. Allez, debout, larve, et cesse de pleurnicher, tu as oublié le visage de ton père. Eddie s'était donc assoupi, en dépit de la recommandation de rester sur ses gardes, et quand le pistolero avait eu la certitude qu'ils dormaient tous deux, il s'était octroyé un délai, se méfiant de la dame. Il avait rechargé ses armes avec des douilles vides et ôté ses ceinturons, non sans une pointe d'angoisse, pour les déposer près d'Eddie. Puis, il avait attendu. Une heure, deux, trois. Vers la demie de la quatrième, alors que son corps exténué et fiévreux tentait de l'entraîner dans le sommeil, il sentit, plutôt qu'il ne vit, la dame s'éveiller, ce qui déclencha chez lui une vigilance absolue. Il la regarda rouler et se mettre à plat ventre, muer ses mains en serre, et rampait sur le sable vers les ceinturons. L'observa tandis qu'elle sortait un des revolvers de son étui, reprenait sa progression vers le jeune homme, puis s'immobilisait, tête dressée, les narines palpitantes, faisant plus que humer l'air, le goûtant. Oui, c'était bien celle qu'il avait été chercher de l'autre côté de la porte. Quand elle jeta un rapide regard dans sa direction, il fit plus que feindre le sommeil, feinte qu'elle aurait sentie, et s'endormit pour de bon. À peine averti par son intuition qu'elle se désintéressait de lui, il s'éveilla de nouveau et, rouvrant à demi son œil, reprit sa surveillance. Il la vit lever l'arme, considérablement moins gênée par son poids qu'Eddie lorsque pour la première fois il avait fait de même, et la pointer sur la tête du jeune homme. Puis elle marqua une pause et ses traits s'emplirent d'une indicible astuce. En cet instant, elle lui rappela Martin. Elle tripota le barillet, s'y prit mal au début, puis réussit à le basculer. Son regard se posa sur les culots de douille, et Roland se tendit, attendant d'abord de voir si elle allait comprendre que le percuteur avait déjà frappé ses amorces, et ensuite si elle allait retourner l'arme pour ne rien découvrir dans ses alvéoles au lieu du plomb qui aurait dû les garnir. Il avait songé à charger les revolvers de cartouches qui avaient fait long feu. Il y avait songé, mais fugitivement. Cort leur avait appris que toute arme à feu n'obéit en dernier ressort qu'aux vieux pieds fourchus, et qu'une balle qui a refusé de partir une fois peut très bien se décider à la fois suivante. L'eût-il vu répondre à l'une de ces deux attentes qu'il eut aussitôt bondi. Mais elle rabattit le barillet et commença de relever le chien, puis marqua une nouvelle pause, attendit une saute de vent pour couvrir le petit cliquetis qui sanctionnerait la fin de son geste. « Elle aussi, pensa-t-il, mauvaise et sans jambes, mais pistolero à coup sûr au même titre qu'Eddie. » Il attendit avec elle. Le vent s'enfla. Elle amena le chien au bandé, plaça le canon presque au contact de la tempe du jeune homme. Avec le sourire grimaçant d'une ogresse, elle pressa la détente. Clic. Il attendit. Elle la pressa de nouveau, puis encore une fois, puis une autre. Clic, clic, clic. Culé ! Hurla-t-elle avant de retourner l'arme dans sa main d'un mouvement fluide. Roland se ramassa, mais ne bondit toujours pas. Agos ne comprend ce qu'est un marteau qu'après avoir eu son doigt proprement écrasé sur un clou. Si elle le tue, elle te tue. Aucune importance, répondit la voix de Corte, inexorable. Eddie se réveilla et donna la preuve que ses réflexes étaient corrects, s'esquivant assez vite pour n'être ni assommé ni tué. Au lieu d'atteindre la tempe, cible vulnérable, la lourde crosse du revolver s'abattit sur le côté de la mâchoire.
« Qu'est-ce que... Seigneur ! Culé ! Culé, tu blanc ! »
brailla Detta, et Roland vit remonter l'arme. Qu'elle fut infirme et qu'Eddie roula déjà hors d'atteinte n'autorisa pas le pistolero à tenter le diable plus longtemps. Si Eddie n'avait pas retenu la leçon, le cas était désespéré. Mais d'une part, il y avait fort à parier que la prochaine fois qu'il lui dirait de rester sur ses gardes, il le ferait. D'autre part, et surtout, la salope était trop rapide. Il se détendit, vola par-dessus Eddie, renversa la femme et atterrit sur elle.
« T'en veux aussi, salopin ! »
hurla-t-elle à Roland, lui plaquant simultanément son pubis contre les parties et levant au-dessus de lui le revolver qu'elle tenait encore.
« Parce que si t'en veux, je vais t'en donner, tu peux être sûr ! Eddie ! »
Plus qu'un cri, c'était un ordre, auquel Eddie ne réagit d'abord qu'en restant stupidement accroupi à côté d'eux, les yeux écarquillés, le regard fixe, le sang ruisselant de sa mâchoire, déjà bien enflé.
« Fais quelque chose !» pensa le pistolero rageur. « Ou serait-ce que tu ne veux rien faire ?»
Ses forces diminuaient et le prochain coup de crosse allait lui casser le bras et encore s'il interposait celui-ci à temps. Sinon, c'était sa tête qu'il fracasserait. Puis Eddie se décida. Il bloqua l'arme à mi-descente et dans un cri, elle se retourna contre lui, le mordit, l'insulta, dans un argot si outrageusement déformé par l'accent du sud que même lui n'y comprit mot. Pour Roland, ce fut comme si elle s'était brusquement mise à parler dans une langue étrangère. Eddie réussit toutefois à lui arracher l'arme et débarrassé de cette menace, le pistolero fut en mesure de clouer l'infirme au sol. Elle ne s'avoua pas vaincue pour autant, s'obstinant à ruer, à se tordre, à hurler, son noir visage ruisselant de sueur. Eddie restait paralysé, les yeux ronds, la bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson. Il porta une main hésitante à sa mâchoire, grimaça, regarda ses doigts et le sang qui les maculait. Elle leur criait qu'elle aurait leur peau à tous les deux, qu'ils pouvaient essayer de la violer, qu'elle les tuerait avec sa chatte, qu'ils allaient voir ce que c'était que sa chatte, une putain de grotte avec des dents tout autour de l'entrée, qu'ils n'avaient qu'à essayer de l'explorer s'ils ne la croyaient pas.
« Mais merde !» fit Eddie, la voix aussi niaise que l'expression de son visage.
« Un de mes ceinturons ! Vite !» octa le pistolero. « Je vais la faire rouler au-dessus de moi et tu vas lui attraper les bras, lui lier les mains dans le dos. »«
Jamais !»
hurla Detta et elle cambra son corps infirme avec une telle violence qu'elle réussit presque à désarçonner Roland. Il la sentit tentant de lui remonter le restant de sa cuisse droite dans les couilles, de chercher à les broyer.
« Elle... « Remue-toi, merde ! Que soit maudit le visage de ton père !»
rugit Roland. Eddie sortit enfin de sa stupeur. 4. À deux reprises, elle faillit leur échapper alors qu'il la maîtrisait. Mais Eddie finit par passer la boucle d'un ceinturon autour des poignets que, dans un ultime effort, Roland venait de réunir dans le dos de la femme. Le pistolero n'ayant cessé dans l'intervalle de se rejeter loin des morsures comme une mangouste combattant un serpent, évitant les dents mais ne se retrouvant pas moins luisant de crachats, jusqu'à ce que, enfin, Eddie la tire en arrière par l'espèce de laisse qu'il venait d'improviser. Le jeune homme ne voulait pas faire mal à cette horreur écumante et hurlante. Elle était mille fois plus repoussante que les homards struosités, car dotée d'une intelligence infiniment supérieure, mais il savait qu'elle pouvait être belle. Il se refusait à blesser l'autre personne que cette enveloppe abritait, telle une colombe prête à jaillir du coffre à double fond d'un magicien. Odetta Holmes était quelque part à l'intérieur de ce monstre. 5. Bien que sa dernière monture, une mule, fût morte dans un passé trop lointain pour lui être resté en mémoire, il avait toujours dans sa bourse une longueur de corde qui lui avait servi à l'attacher, laquelle corde avait été dans un passé plus reculé encore, un magnifique lasso de pistolero. Ils s'en servirent pour river la dame d'ombre à son fauteuil comme elle s'était imaginée, ou avait cru se rappeler, ce qui en fin de compte revenait au même, l'avoir été auparavant. Puis ils s'en éloignèrent. N'eussent été les monstrueux crustacés, Eddie aurait gagné le bord de l'eau pour se laver les mains.
« J'ai l'impression que je vais vomir !»
dit-il d'une voix qui muait d'un extrême à l'autre de son registre comme celle d'un jeune adolescent.
« Pourquoi vous vous faites pas un 69 tous les deux ?»
braillait la créature en se débattant dans ses liens.
« Pourquoi vous ne faites pas ça si la femme noire vous flanque la trouille ? Allez, sucez-vous vos petites bougies ! Profitez-en tant que c'est possible, parce que Detta Walker va sortir de son fauteuil !» Et vous la coupez, votre petite bougie, maigrichonne ! Elle va vous la couper pour en nourrir les six circulaires qui se travaillent là-bas !
C'est elle la femme dans laquelle je suis entré, dit le pistolero. Tu me crois maintenant ?
Je te croyais avant, ne te l'ai-je pas dit ?
Tu croyais me croire ? Tu me croyais du bout de l'esprit ? Me crois-tu de tout ton être maintenant ? Jusque dans ses moindres recoins ? Eddie regarda la chose qui se convulsait et hurlait dans le fauteuil, puis il se détourna, blanc comme un linge, hormis sa mâchoire qui saignait encore un peu. Tout ce côté de son visage commençait d'ailleurs à évoquer un ballon de baudruche.
« Oh que oui, » dit-il. « Cette femme est un monstre !»
Eddie se mit à pleurer. Roland aurait voulu le consoler, ne pouvait se permettre un tel sacrilège. Le souvenir de Jake n'était que trop vif. Aussi s'enfonça-t-il dans le noir avec en lui cette fièvre nouvelle qui le brûlait et le torturait. 6. Beaucoup plus tôt dans la nuit, alors qu'Odette dormait toujours, Eddie avait dit qu'il avait peut-être une idée de ce qui ne tournait pas rond chez elle. Peut-être. Le pistolero lui avait demandé de développer. Il se peut qu'elle soit schizophrène. Roland, bornant sa réponse à une mimique impuissante, Eddie lui expliqua ce qu'il comprenait de la schizophrénie. Savoir glaner dans des films tels que Les Trois Visages d'Ève ou, au hasard de diverses émissions à la télé, en particulier les soaps qui, lorsque Henry et lui étaient défoncés, leur servaient de toile de fond pendant leur voyage. Roland hocha la tête. Oui, la maladie que lui décrivait Eddie semblait correspondre. Une femme à deux visages, l'un de lumière, l'autre enténébré comme la figure que l'homme en noir lui avait montrée sur la cinquième lame de tarot. Et ces gens, les schizophrènes, ils n'ont pas conscience d'avoir une autre personnalité. Non, dit Eddie, bien que... Il en resta là. Observant d'un air sombre les omarstruosités qui allaient et venaient et posaient leurs questions et allaient et venaient. Bien que quoi ?
Et c'est que je suis pas Jivaro, alors j'en sais trop rien.
Jivaro, qu'est-ce que c'est ?
Réducteur de tête. Un type qui s'occupe de ce qui va pas là-dedans. Le vrai nom, c'est psychiatre.
Roland fit signe qu'il avait compris. Il préférait réducteur de tête, parce que l'esprit de cette femme occupait trop de place, deux fois plus que nécessaire.
Bien qu'à mon avis, reprit Eddie, les schizos se doutent presque toujours qu'il y a quelque chose d'anormal chez eux, à cause des trous de mémoire. Je me trompe peut-être, mais je vois ça comme s'il s'agissait le plus souvent de personnes qui pensent souffrir d'amnésie partielle du fait qu'elles interprètent mal les passages à vide qui semblent se produire quand leur autre moi est aux commandes. Elle, en revanche, dit se souvenir de tout. Et si elle le dit, c'est qu'elle est sincèrement persuadée qu'il en est ainsi.
Je pensais avoir entendu dire qu'elle ne croyait pas à la réalité de ce qui lui arrive.
Ouais, reconnut Eddie, mais oublie ça pour l'instant. Ce que j'essaie de dire, c'est que, quelle que soit l'interprétation qu'elle en donne, ses souvenirs passent directement de son living, où elle est en peignoir devant le journal télévisé de minuit, à sa situation présente. Directement, sans rupture aucune. Elle n'a pas la moindre sensation qu'une autre personne a pris le relais dans l'intervalle. Et il ne faut pas perdre de vue que quand tu lui es tombé dessus chez Mrs., ce pouvait être le lendemain ou des semaines plus tard. Je sais qu'on était encore en hiver parce que la plupart des clients dans le magasin étaient en par-dessus.
Le pistolero hocha la tête. Les perceptions d'Eddie s'affinaient.
Bien.
Il n'avait certes pas encore remarqué ni les bottines, ni les écharpes, ni les gants dépassant des poches, mais c'était un début.
Mais à part ça, impossible de dire combien de temps Odetta est restée cette autre femme, parce qu'elle n'en sait rien.
Je pense qu'elle se trouve dans une situation où elle n'a jamais été auparavant, et pour se protéger des deux côtés, elle a recours à cette histoire de coups sur la tête qu'elle aurait reçue.
Roland acquiesça d'un signe.
« Et puis il y a les bagues !» enchaîna Eddie. « Les voir lui a donné un sacré choc. Elle a fait de son mieux pour pas le montrer, mais ça crevait les yeux !»
Roland avait alors demandé « Si ces deux femmes ignorent qu'elles partagent un même corps, si elles n'ont pas le même soupçon que quelque chose cloche, et si chacune d'elles a son propre continuum de souvenirs, en partie réel, en partie forgé de toutes pièces pour justifier le temps de l'autre, qu'allons-nous faire d'elles ? Comment allons-nous pouvoir vivre à ses côtés ?»
Haussement d'épaule d'Eddie.
C'est pas à moi qu'il faut poser ce genre de questions. C'est ton problème. C'est toi qui dis avoir besoin d'elle. Merde, t'as risqué ta vie pour aller la chercher.
Eddie réfléchit un instant à ce qu'il venait de dire et se revit accroupi au-dessus du corps de Roland, le couteau de celui-ci à moins d'un centimètre de sa gorge. Il eut un rire sec, dénué d'humour.
Ouais, mec, ta vie n'a vraiment tenu qu'à un fil.
Un silence s'installa entre eux. Alors que le pistolero allait le rompre pour réitérer sa mise en garde et annoncer assez fort pour être entendu de la dame si cette respiration régulière ne faisait que feindre le sommeil, qu'il allait se pioter. Eddie le devança, lui disant quelque chose qui jeta dans son esprit une clarté vive et soudaine, quelque chose qui lui fit comprendre au moins une partie de ce qu'il avait si désespérément besoin de savoir. À la fin, quand ils avaient franchi la porte, elle avait changé à la fin. Et il avait vu quelque chose. Une chose.
« Tu veux que je te dise, fit Eddie, sans cesser de fixer d'un œil morose les restes du feu qu'il remuait avec une pince de leur proie du soir, quand tu l'as ramené, moi j'ai eu l'impression d'être schizo. »«
Pourquoi ?» Eddie regarda Roland, vit que ce n'était pas une question en l'air, qu'il avait une raison précise de la poser, ou crut le voir, et prit une minute pour peser sa réponse.
« C'est rudement dur à décrire, mec. » C'était le fait de regarder par cette porte. C'est ça qui m'a décoiffé.
Faut bien s'imaginer que quand on y voit bouger quelqu'un, c'est comme si on bougeait avec.
Mais tu sais de quoi je parle.
Roland hocha la tête.
Bien, moi j'ai regardé ça comme si c'était un film. Si tu sais pas ce que c'est, laisse tomber, aucune importance. Et ce, presque jusqu'à la fin.
Et puis tu as retourné Odetta vers ce côté-ci de la porte. Et pour la première fois de ma vie, je me suis vu. C'était comme... Il chercha en vain. Je sais pas. On aurait pu dire que c'était comme de se voir dans une glace, mais ça n'aurait pas collé parce que c'était comme d'avoir quelqu'un d'autre en face de soi. D'être retourné comme un gant. D'être en deux endroits à la fois.
Merde, je sais pas, moi.
Clouer le pistolero sur place n'en réclamait pas plus. C'était là ce qu'il avait senti quand ils avaient franchi la porte, ce qui lui était arrivé à elle, et pas seulement à elles deux. L'espace d'un instant, Detta et Odetta s'étaient regardées, pas comme si chacune avait vu son reflet dans un miroir, mais en tant que deux personnes distinctes. La glace s'était muée en vitre, et pendant quelques secondes, Odetta avait vu Detta, et Detta avait vu Odetta, et une horreur égale les avait frappés.
Elles savent, l'une comme l'autre, songea le pistolero, lugubre, qu'elle n'ait pas su avant, peut-être, c'est exclu désormais.
Elles peuvent essayer de se le cacher, mais il est un instant où elles se sont vues, où elles ont su, et ce savoir est toujours en elles, maintenant.
Roland ?
Oui.
Je voulais simplement être sûr que tu ne dormais pas les yeux ouverts, parce que c'est l'impression que tu donnais d'être très loin dans l'espace, ou dans le passé.
Auquel cas, je suis de retour. Bon, maintenant je vais me coucher. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Sois sur tes gardes.
Je prends la veille, dit Eddie. Mais le pistolero savait que, malade ou pas, ça allait être à lui de veiller cette nuit. Tout le reste en avait découlé.
7. Passé le chahut, Eddie et Detta Walker avaient fini par se rendormir. Elle n'était pas tombée dans le sommeil que dans une sorte d'évanouissement, exténuée, le corps retenu par les liens. Le pistolero s'était recouché, mais restait éveillé.
« Je vais avoir à provoquer un affrontement entre elles deux », songeait-il, sans qu'il fût besoin qu'un des réducteurs de tête d'Eddie lui soufflât qu'un tel combat risquait d'être effroyable. « Si c'est la part de lumière, Odette, qui en sort vivante, tout peut encore bien se passer. Mais si c'est l'autre, la part ténébreuse, il est presque certain que tout sera perdu. »
Il sentait néanmoins que n'était pas requise la mort de l'une ou l'autre, mais leur fusion. Il s'était déjà rendu compte de la valeur que pouvait avoir pour lui, pour eux, la pugnacité vulgaire de Detta Walker, et souhaitait l'avoir à ses côtés, mais sous contrôle. Un long chemin les attendait. Detta les voyait, Eddie et lui, comme des monstres de quelque espèce nommés par elle.
Quel est que blanc ! Dangereuse illusion, sans plus. Mais ils étaient voués à rencontrer des monstres bien réels, les crustacés géants n'étant que les premiers d'une longue série. L'agressive et tenace énergie de cette femme, dans laquelle il était entré hier et qui venait de ressurgir cette nuit de sa cachette, pouvait se révéler à condition d'être tempérée par la tranquille humanité d'Odetta Holmes, décisive dans un combat contre de tels monstres, particulièrement décisive maintenant qu'il lui manquait deux doigts, qu'il était presque à court de balles alors que la fièvre le gagnait.
Cela dit, nous n'en sommes pas là. Je crois que l'étape initiale pourrait être de faire prendre conscience à chacune de l'existence de l'autre, ce qui amènerait une confrontation. Mais comment y parvenir ?
Il resta éveillé tout au long de cette longue nuit, réfléchissant et retournant le problème en tous sens, et bien qu'il sentît la fièvre croître en lui, la solution refusa d'apparaître.
8.
Eddie s'éveilla peu avant l'aube, vit le pistolero assis, drapé à l'indienne dans sa couverture, près des cendres de leur feu de la veille, et le rejoignit.
« Comment tu te sens ? » lui demanda-t-il à voix basse.
La dame dormait encore dans l'entrecroisement des cordes, bien qu'elle sursautât de temps à autre, marmonna et gémit.
« Bien. »
Eddie l'examina.
« Tu n'en donnes pas l'impression ?»«
Merci, »
dit sèchement Roland.
« Tu trembles.
Ça passera. »
La dame s'agita de nouveau. Cette fois, dans les mots qui lui échappèrent, il y en eut un presque reconnaissable. Oxford, peut-être.
« Seigneur, ça me fait mal de l'avoir attaché comme ça, » murmura Eddie.
« Comme un veau à l'étable. »«
Elle ne va pas tarder à se réveiller. Il se peut qu'alors on puisse la détacher. »
Ce qu'ils voulaient l'un et l'autre dire, en fait, c'était que lorsque la dame dans le fauteuil ouvrirait les yeux, si le regard était serein, peut-être même légèrement perplexe, ce serait alors Odetta Holmes qui allait les accueillir. Un quart d'heure plus tard, lorsque le soleil décocha ses premiers rayons par-dessus les collines, ses yeux s'ouvrirent,
Cependant, ce ne fut pas le regard serein d'Odetta Holmes qu'ils virent, mais les éclairs de rage de Detta Walker.
Combien de fois vous m'avez violé pendant que j'étais dans les pommes ? Je me sens le con lisse et poissé comme si j'avais fourré une poignée de ces petites bougies minuscules. Vous autres enculés de cul blanc, vous appelez des bites !
Roland soupira. Allons-y, dit-il, et il se mit debout, grimaçant sous l'effort.
Pas question que j'aille que papa avec toi, cul blanc !
Cracha Detta. Oh, mais si, rétorqua Eddie, tu vas nous accompagner, je regrette infiniment, chérie.
Où vous allez m'emmener ?
Ma foi, fit Eddie, ce qu'il y avait derrière la porte numéro 1 n'était pas terrible, et derrière la numéro 2, c'était pire encore. Alors maintenant, au lieu de laisser tomber comme si on avait deux sous de bon sens, on va aller jeter un coup d'œil derrière la 3. Vu la progression, on a des chances d'y trouver quelque chose du genre Godzilla ou Ghidra les trois têtes. Mais tu vois, je suis optimiste. Je me dis que ça pourrait être la batterie de cuisine en inox.
J'irai nulle part.
Mais si, dit Eddie, qui alla se placer derrière le fauteuil. Elle recommença à se débattre dans ses liens, mais les nœuds étaient l'œuvre du pistolero, et plus elle se débattait, plus il se resserrait. Elle eut au fait de s'en apercevoir. Venimeuse en diable, mais ayant oublié d'être bête. Elle n'en décocha pas moins à Eddie, par-dessus son épaule, un sourire qui le fit légèrement reculer. Il lui semblait n'avoir jamais vu sur un visage humain d'expression aussi perverse.
« Bon, » dit-elle.
J'ai peut-être bien fait un bout de chemin avec vous, mais pas aussi loin que tu t'imagines, fromage blanc. Et pas aussi vite. Je peux te le jurer.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Encore une fois, ce sourire par-dessus l'épaule. Tout de jouissance mauvaise.
Tu verras bien, fromage blanc.
Ses yeux fous mais convaincants se posèrent brièvement sur le pistolero.
Tous les deux ! Vous allez voir.
Eddie referma ses mains sur les poignées du fauteuil et ils reprirent leur marche vers le nord, laissant à présent, outre leurs pas, la double trace de la dame sur le sable de cette plage apparemment sans fin. 9. La journée fut un cauchemar. Dur d'évaluer la distance parcourue quand c'était dans un décor qui variait si peu, mais Eddie n'en sut pas moins qu'il se traînait à présent. Et il savait à qui la faute.
Que oui.
Tous les deux, vous allez voir, avait dit Detta.
Et il ne s'était pas ébranlé depuis plus d'une demi-heure qu'il commençait à voir.
Pousser. D'abord ça. Pousser le fauteuil sur une plage de sable fin aurait été aussi impossible que de conduire une voiture dans une épaisse couche de poudreuse. L'agglomérat marneux de cette grève rendait l'exploit impossible, loin d'être aisé toutefois. Ça consentait à rouler un moment sans problème, dans le crissement des coquillages et les projections de gravier sous le caoutchouc plein des roues, puis ça bloquait sur une plaque de sable plus fin, et le jeune homme se trouvait alors grogné en peinant pour forcer le passage. Le sable aspirait littéralement les roues, et il fallait simultanément pousser et peser de tout son corps sur les poignets si l'on ne voulait pas voir le fauteuil et son ballot d'occupante basculer tête la première. Et supporter en prime les gloussements de Detta.
« Alors, mon mignon, tu t'amuses bien derrière ?»
lui demandait-elle chaque fois qu'il rencontrait l'un de ses pièges. Quand le pistolero s'approcha pour l'aider, il le renvoya d'un geste.
« Tant ta chance, on va faire un roulement. »
« Mais je pense que mes tours vont durer nettement plus longtemps que les siens, » fit une voix dans sa tête, avec la touche qui se paie. « Je suppose que c'est déjà trois fois trop de boulot pour lui de se traîner, alors poussez le fauteuil. »« Non, monsieur, je crois que c'est à toi seul d'assumer. »« Dieu qui se venge, vois-tu, après toutes ces années où t'as porté ta guenon, voilà qu'il te faut en pousser une. » Il émit un rire bref avec ce qui lui restait d'haleine.
« Qu'est-ce qui te fait marrer ?» Fromage blanc ?
Demanda Detta d'une voix qu'elle voulait sarcastique, mais qu'Eddie devina un rien hargneuse. Visiblement, pour Miss Detta, je ne suis pas censé trouver quoi que ce soit de drôle dans la situation, se dit-il.
Laisse tomber, cocotte, tu comprendrais pas.
C'est moi qui vais te laisser tomber, dit-elle. Toi et ton copain allez même tomber de si haut que vous vous retrouverez en 1000 morceaux sur cette plage. En attendant, tu ferais mieux de garder ton souffle pour me pousser. T'as déjà l'air de plus en avoir trop.
Bon, apparemment, t'es capable de parler pour nous deux, Octaï dit. Ton souffle n'est pas prêt de te lâcher.
En parlant de lâcher, je vais t'en lâcher un, cul blanc. Ça va t'exploser au nez si fort que t'en passeras l'arme à gauche.
Promesse, promesse.
Ellie extirpa le fauteuil du sable et leur progression reprit sans trop de problèmes, pour un temps du moins. Le soleil n'était pas encore au plus haut, mais arrachait déjà de belles suées.
La journée s'annonce amusante et instructive, se dit-il. Je vois ça d'ici.
Pilé net. Ça, c'était le deuxième truc. Ils avaient atteint une portion de plage plus compacte. Eddie poussait le fauteuil plus vite avec le vague espoir que cette vitesse acquise lui permettrait de franchir sur sa lancée le prochain piège à sable. Et tout d'un coup, le fauteuil s'arrêta net. Eddie en reçut en pleine poitrine la barre transversale, à l'arrière. Il grogna. Le pistolero leva les yeux, mais ses réflexes, si rapides fussent-ils, ne purent empêcher le fauteuil de basculer exactement comme il avait failli le faire à chaque passage sablonneux. Il bascula, et Detta bascula avec, ligotée, impuissante, mais n'en ricanant pas moins. Elle ricanait toujours quand, finalement, Eddie et Roland réussirent à redresser le véhicule et son occupante, constatant que certaines cordes s'étaient resserrées au point de lui cisailler vraisemblablement les chairs, bloquant la circulation sanguine aux extrémités. Elle était tombée sur le front et se l'était sérieusement éraflée. Du sang lui ruisselait jusque dans les sourcils, mais elle ricanait quand même. Puis le fauteuil fut de nouveau sur ses roues, les deux hommes pantelants et hors d'haleine. C'est qu'il leur avait fallu soulever plus de 120 kilos, sans doute, dont une bonne moitié assurée par le seul fauteuil. Eddie songea que si le pistolero avait prélevé la dame d'ombre dans son époque à lui, 1987, l'engin en aurait facilement pesé 32 moins. Detta alternait gloussement et ralente, clignait des yeux pour en ôter le sang.
« Gardez-moi ces mecs, ton pas fichu de pousser sans me faire ramasser un billet de par terre !»«
C'est ça, marmonna Eddie. Téléphone à ton avocat et colle-nous-le aux fesses. »
Ils avaient l'air complètement vannés. C'est si dur que ça de me relever. Ça avait bien mis 10 minutes.
Le pistolero déchira un nouveau pan de sa chemise, au point où elle en était, quelle importance, et il s'apprêtait à étancher la plaie au front de Detta, quand les dents de celle-ci se ruèrent à la rencontre de la main secourable. C'était la gauche, celle qui avait encore tous ses doigts. Et le claquement de ses dents qui se refermaient sur le vide persuada Eddie que si Brant avait été moins vif, sa main droite n'aurait plus guère eu de motif d'être jalouse de l'autre. Elle ricanait, rivait sur lui des yeux emplis de joie mauvaise, mais derrière le pistolero y voyait la peur. Detta le craignait. Il était le vraiment méchant. Pourquoi ce titre? Parce qu'il se pouvait qu'à un niveau plus profond, elle le sentit conscient de ce qu'elle était.
« J'ai failli t'avoir, cul blanc !» dit-elle. « Cette fois, c'était moins une !»
Et elle ricana, caquée de sorcière.
« Tiens-lui la tête !» dit tranquillement le pistolero. « Elle mord comme une belette !»
Eddie fit comme demandé pendant que Roland essuyait la plaie. De faible étendue, elle n'avait pas l'air très profonde, mais le pistolero ne voulut prendre aucun risque. Il descendit lentement jusqu'à la mer, trempa son morceau de chemise dans l'eau salée, puis remonta vers Eddie et la dame. Elle se mit à hurler à son approche.
« Ne me touche pas avec ce truc! Plus maintenant que tu l'as trempé dans cette flotte, d'où sortent ces poisons de bestioles! Fiche le camp avec ça! Fiche-moi le camp !»
« Tiens-lui la tête !» dit encore une fois Roland, toujours sur le même ton. Elle la lançait de gauche et de droite. « Je ne tiens pas à prendre aucune sorte de risque. »
Eddie la lui maintint de nouveau et serra quand elle tenta de se dégager. Elle vit qu'il prenait sa tâche à cœur,
et se calma aussitôt, ne manifestant plus la moindre peur à l'endroit du chiffon mouillé.
Tout ça n'avait été que de la comédie. Elle sourit au pistolero qui bassinait sa blessure, la nettoyait avec soin des derniers grains de sable qui la souillaient.
« En fait, t'as pas l'air simplement vanné, Cublan, » fit-elle remarquer. « Tu as l'air malade comme un chien, mais ta vie t'ira pas loin comme ça. T'es pas en état de faire un long voyage. »
Eddie examinait les commandes rudimentaires du fauteuil. Il y avait là un frein à main qui bloquait les deux roues. Detta s'était débrouillé pour y amener sa main droite et avait eu la perverse patience d'attendre qu'Eddie ait pris de la vitesse pour l'actionner, provoquant ainsi sa propre chute. Dans quel but? Nul autre que les ralentir. Il n'y avait aucun motif logique d'agir de la sorte, mais une femme comme Detta n'avait pas besoin de motif, se dit-il. Une femme comme elle était parfaitement capable de faire une chose pareille par pure méchanceté. Roland relâcha quelque peu les nœuds de manière à ce que le sang pût circuler plus librement, puis rattacha la main de Detta loin du frein.
« T'en fais pas, mon bonhomme, » dit-elle en lui décochant un éclatant sourire dangereusement surchargé de dents. « T'en fais pas, je me débrouillerai quand même. Il y a bien d'autres moyens de vous ralentir, les gars. Toutes sortes de moyens. »
« Allons-y, » dit le pistolero d'une voix sans timbre.
« Ça va, mec ?» lui demanda Eddie.
Roland était très pâle.
« Oui, allons-y. »
Et ils se remirent en route.